Chers amis, chers camarades, tout d'abord, je tiens à saluer tous ceux qui nous ont rejoints ce dimanche à la fête de lutte ouvrière de la fête lyonnaise. Alors bien sûr, en plus de l'ambiance fraternelle habituelle, le camarade Soleil ne nous a pas fait faux bond et a contredit toutes les prévisions, ce qui ne gâte rien, bien évidemment. Alors la destruction des installations pétrolières saoudiennes par des drones attribués à la rébellion houthiste est venue nous rappeler qu'une guerre fait rage au Yémen. En 4 ans, cette guerre a déjà provoqué plus de 50 000 morts. Elle provoque des désastres humanitaires, des épidémies de choléra, des famines. Mais ici, on n'en parle pas beaucoup, parce que le Yémen, c'est loin. Aujourd'hui, cette guerre nous rattrape, à commencer par notre porte-monnaie, avec la flambée des prix du pétrole sur toute la planète. Si les prix flambent, ce n'est pas à cause d'un risque de pénurie de pétrole. C'est que l'économie est si instable, les masses de capitaux à la recherche d'un bon placement si grandes que le moindre événement provoque un affolement chez les financiers. Les menaces ne sont pas seulement économiques, elles sont militaires. Derrière la guerre au Yémen, on retrouve d'un côté l'Arabie Saoudite et de l'autre l'Iran. Mais derrière l'Arabie Saoudite, il y a les puissances impérialistes, il y a la France de Macron qui vend les armes ultra sophistiquées, les navires de guerre qui tuent les Yéménites. Et il y a les États-Unis de Trump avec leurs dizaines de bases au Moyen-Orient et 35 000 soldats prépositionnés. À tout moment, l'escalade verbale entre Trump et les dirigeants iraniens peut basculer dans une nouvelle guerre. Il ne se passe pas une semaine sans que les États-Unis ne montrent leurs muscles. Ils viennent de déverser 36 tonnes de bombes sur une petite île en Irak sous prétexte qu'elle abritait des stocks d'armes de Daesh. Pour imposer leur domination politique et leurs intérêts économiques, les puissances des États-Unis en tête maintiennent le Moyen-Orient à feu et à sang. Même quand ils n'envoient pas les bombes, les peuples de la région paient le prix fort. L'embargo décrété par Trump contre l'Iran, suivi sans broncher par Macron et les dirigeants européens, provoque des pénuries, des souffrances pour la population iranienne. Les dirigeants politiques de nombreux intellectuels osent se réjouir de la paix qui règne depuis 80 ans dans les pays riches. Mais le monde a déjà un pied dans la guerre. Les millions de réfugiés qui fuient le Yémen, la Syrie, l'Afghanistan et tant d'autres pays dans le monde la vivent déjà dans leur chair. La seule façon d'enrayer la machine infernale qui se met en place, c'est d'arracher le levier de commande de la société aux capitalistes qui les contrôlent. La concurrence exacerbée entre les capitalistes est la toile de fond de la vie politique. C'est ce qui explique les attaques permanentes menées contre les classes populaires par les gouvernements qui se succèdent. Pour garantir ses profits, le patronat aggrave l'exploitation, multiplie la précarité, bloque les salaires. La feuille de route de Macron, serviteur dévoué du capital, c'est de réduire la part qui revient aux travailleurs sous forme d'indemnité de chômage, de retraite, de budget pour les hôpitaux ou les écoles. Pour faire oublier les coûts qu'il nous porte et tenter de nous diviser, Macron vient piquer dans la poubelle de Le Pen sa démagogie xénophobe. En prétendant que les bourgeois n'auraient pas de problème avec l'immigration, mais que les classes populaires en seraient les victimes, il est doublement crasseux. Il alimente la peur des migrants et désigne des boucs émissaires. Il affiche son mépris pour les travailleurs et les pauvres qui, pour lui, sont forcément racistes et incapables de solidarité. Mais c'est justement la solidarité dans les familles, entre voisins, entre collègues, qui permet aux exploités de faire face à leur vie de plus en plus dure. Alors la meilleure façon de faire ravaler sa morgue à Macron, c'est de ne pas nous laisser diviser, c'est de nous unir pour mener un combat commun contre ces attaques. Depuis plusieurs mois, le personnel des services d'urgence des hôpitaux est mobilisé pour dénoncer le manque criant de personnel, les fermetures continues de lits et les salaires insuffisants. Cette mobilisation, très variable d'un hôpital à l'autre, a obligé Buzyn à faire des annonces qui se voulaient spectaculaires. Mais le plan de 750 millions d'euros en 4 ans qu'elle a annoncé est largement de l'enfumage. Il n'y a rien sur les 10 000 embauches que réclame le personnel des urgences. Rien sur les réouvertures des lits qui ont été fermés ces dernières années. Et pas un centime de plus pour le budget des hôpitaux. Ce que Buzyn a dû concéder aux urgences suite à leur mobilisation, comme une prime de 100 euros par mois, sera prélevé sur les autres postes. En gros, elle déshabille Pierre pour habiller Paul. Alors obliger Macron et Buzyn à augmenter massivement le budget de la santé pour tous les services afin de réaliser les embauches indispensables dans des conditions matérielles dignes demande de créer un rapport de force supérieur. Ce rapport de force ne peut être créé service par service, métier par métier. Il nécessite la mobilisation de l'ensemble du personnel des hôpitaux qui pourrait trouver facilement le soutien de la population. Les milliards qui manquent à l'hôpital sont distribués aux grands patrons sous forme d'exonération ou de cotisations sociales. Je rappellerai seulement les 40 milliards d'euros distribués cette année par Macron au titre du CICE, transformés en baisse définitive de cotisations. Et c'est encore pour augmenter la richesse qui revient au patronat que Macron et Philippe préparent une nouvelle réforme des retraites. Comme toutes les réformes qui se succèdent depuis 1993, celle qu'il nous mijote se traduira mécaniquement par des pensions plus faibles. Macron s'apprête à enlever 3, 4, peut-être 500 euros, voire plus encore, sur les pensions mensuelles des futurs retraités. C'est d'autant plus révoltant que les richesses accumulées par le travail collectif de tous les travailleurs n'ont jamais été si grandes. Le fruit de notre travail est entièrement absorbé à un seul pôle de la société. Le plus fortuné des patrons français, Bernard Arnault, PDG de LVMH, a vu son patrimoine augmenter de 100 millions par jour cette année. Autant dire que s'il y a un problème qu'il ne se pose pas, c'est bien celui de sa retraite. Ministres et journalistes nous rabâchent que l'espérance de vie s'allonge et qu'il serait donc normal de travailler plus longtemps. Mais combien de travailleurs, après une vie à l'usine, en horaire décalé, en équipe alternée, n'en peuvent plus bien avant 60 ans ? Combien d'ouvriers, de caissières et de maçons, de femmes de ménage ont le dos cassé ou souffrent de troubles musculo-squelettiques qui les empêchent de continuer à travailler ? La santé de ces travailleurs a été détruite pour augmenter toujours plus la productivité du travail. Ces gains de productivité ont été entièrement encaissés par les Arnault, Pinault, Bolloré et compagnie. Comme à chaque réforme, les ministres invoquent l'équité et la justice entre les salariés du public et du privé, entre telle ou telle corporation, pour tailler à la hache dans les pensions des uns ou des autres. Leur équité, ce n'est jamais aligner les moins lotis sur les mieux rémunérés, mais toujours l'inverse. Pire encore, réforme après réforme, année après année, notre sort à tous se dégrade. La réalité, c'est que nous sommes tous attaqués et nous devons nous défendre tous ensemble. Vendredi 13 septembre, les salariés de la RATP ont massivement fait grève. Pour la première fois depuis 2007, le réseau de la RATP a été quasiment à l'arrêt. des conducteurs de métro à ceux des bus, des employés des stations aux techniciens de maintenance, tous refusent par avance la démolition de leur régime de retraite. La grève de la RATP a été remarquée. Elle montre que lorsqu'une catégorie de salariés se mobilise en masse, ça se remarque et ça pèse. Cette grève réussie montre que si l'ensemble des travailleurs de l'industrie et des services, du privé et du public, se battaient ensemble, et pas seulement une journée, ils seraient une force irrésistible. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, parce que les travailleurs n'étaient pas intervenus avec leurs armes de classe, on avait beaucoup entendu que les grèves s'étaient terminées. Eh bien, on a pu voir que la force des travailleurs est intacte et qu'ils disposent d'un levier autrement plus puissant que l'occupation des ronds-points pour faire pression sur le gouvernement et les capitalistes. Le gouvernement ne s'y est pas trompé. Macron et Philippe ont changé de ton. Lors de la réforme ferroviaire en 2018, ils étaient passés en force, refusant même de discuter avec les syndicats. Depuis la rentrée, ils se prétendent attentifs et ouverts au dialogue social. Ils font des courbettes aux dirigeants des syndicats et répètent qu'ils prendront le temps de la concertation et que les réformes seront étalées dans le temps. Ils ont reporté l'examen et le vote de leurs réformes après les élections des municipales. Cela prouve qu'ils ne sont pas sereins. Ils craignent une mobilisation des travailleurs. Ils n'ont pas oublié 1995, année où la grève des cheminots et les manifestations massives de millions de salariés avaient contraint Juppé, alors Premier ministre, à manger son chapeau et ranger sa réforme. Ces dirigeants politiques de la bourgeoisie savent qu'une explosion sociale est toujours possible et surtout ils la redoutent. Eh bien, nous, les travailleurs, nous devons nous souvenir aussi de ces luttes passées. Nous devons profiter des hésitations du pouvoir en place pour retrouver confiance en nous et nous renforcer. Une première occasion nous en est donnée mardi prochain, le 24 septembre, avec l'appel à la grève et des manifestations dans tout le pays par la CGT, rejoint par Sud et d'autres syndicats. Montrons notre force collective, soyons nombreux à y participer et entraînons le maximum de nos collègues de boulot dans la bataille. Bien sûr, nous ne savons pas si le monde du travail va surmonter la résignation qu'il a accumulée à cause de tous les reculs subis. Nous ne savons pas s'il va engager le combat contre cette nouvelle attaque. Nous pouvons l'espérer et nous pouvons militer partout où nous sommes présents pour aller dans cette voie. Nous ne pourrons pas compter sur les appareils syndicaux pour offrir un plan de bataille permettant aux secteurs les plus déterminés d'entraîner les plus hésitants. Les directions des confédérations cherchent, chacun de son côté, à être reconnues comme le meilleur interlocuteur par le gouvernement. Chacune défend en priorité les spécificités de sa branche, de son secteur. Cela contribue à émietter les travailleurs face à un gouvernement et des patrons qui, eux, ont une feuille de route unique. Les travailleurs ne doivent pas se laisser diviser en fonction de leur profession, de leur statut, de leur origine ou de leur papier. Ils doivent au contraire mettre en avant tout ce qui leur est commun. Ils doivent retrouver la conscience qu'ils forment une même classe sociale qui produit tout, qui fait fonctionner les hôpitaux, les transports, la distribution et toutes les entreprises. Cela les rend aptes à diriger la société bien mieux que ne le font les capitalistes. Ils doivent prendre conscience que les responsables de leur malheur ne sont ni les travailleurs étrangers, ni les migrants, ni l'Union européenne, ou encore la mondialisation, mais les capitalistes, à commencer par ceux qui sont bien de chez nous. Cette conscience, ce qu'on appelle la conscience de classe, a existé pendant des décennies. Elle avait été implantée par les générations de militants révolutionnaires du passé, à l'époque des socialistes de l'école de Jules Guesde ou de Paul Lafargue, des syndicalistes révolutionnaires ou des communistes des années 20. Cette conscience a longtemps survécu parmi le vaste milieu populaire lié au Parti communiste. Mais elle a été méthodiquement démolie par les passages des partis de la gauche réformiste au pouvoir. Face aux attaques de Macron, face à la montée de l'extrême droite et des idées réactionnaires, certains disent qu'il faut unir et rebâtir une vraie gauche. À la fête de l'humanité, le week-end dernier, Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste français, a appelé de ses voeux un programme en commun pour une gauche unie dans les urnes, qui aille du Parti socialiste à la France insoumise en passant par Europe Écologie Les Verts. Mais la question, c'est pourquoi faire ? Pour refaire une politique de rigueur et d'austérité comme à l'époque de Mitterrand ? Pour privatiser les entreprises publiques les plus rentables comme à l'époque de Jospin ? Aujourd'hui, divers partis de gauche mènent ensemble la campagne contre la privatisation de l'aéroport de Paris. Très bien. Mais qui a privatisé France Télécom, rendant possible 22 000 suppressions de postes ? Qui a privatisé Air France ? C'est Jospin et la gauche plurielle. Et je ne parle pas de Hollande, qui s'était fait élire en prétendant combattre la finance avant de la servir avec Macron comme ministre de l'économie, au ministère de l'économie. Alors ni de Tsipras, en Grèce, qui a perdu les élections après avoir mené à son tour la politique d'austérité, vous suivez, exigée par les patrons. Si à chaque fois qu'elle arrive au pouvoir, la gauche mène la politique exigée par les grands patrons, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'améliorer le sort des classes populaires sans remettre en cause la propriété privée du capital. Dans cette période de crise profonde, il n'y a pas de place pour des réformes progressistes. Aucun progrès social, aucune bonne loi ne pourra être durable tant que les travailleurs n'auront pas arraché à la bourgeoisie le pouvoir économique et politique. Ce qu'il est vital de reconstruire, ce n'est pas la gauche unie. Mais un parti qui dise la vérité aux travailleurs, un parti qui cherche, dans chaque événement de l'actualité politique ou sociale, à opposer les intérêts des travailleurs à ceux du grand capital, un parti qui ne leur fait pas croire qu'on pourra changer notre sort avec un bulletin de vote ou de meilleures lois. Bien sûr, les travailleurs ne sont pas les seuls à subir les méfaits du capitalisme. Les petits paysans, les artisans ou les commerçants sont victimes de la grande distribution, de leurs donneurs d'ordre ou des banques. Eux aussi subissent de plein fouet la crise économique. Et on a vu, lundi dernier, plusieurs professions libérales, les avocats, les infirmières ou les médecins libéraux, manifester pour défendre leur régime de retraite. À l'inverse, les travailleurs peuvent apparaître à beaucoup comme résignés, soumis, voire individualistes. Et c'est un fait qu'en l'absence de lutte collective, la morale de la société capitaliste, le chacun pour soi, le nationalisme, la xénophobie ou encore le communautarisme gagnent les rangs de la classe ouvrière. Sauf que les travailleurs n'ont aucune échappatoire dans cette société. Sauf que les travailleurs, parce qu'ils sont concentrés, liés entre eux par de multiples liens de la production, représentent une force potentielle immense. Alors la seule journée de grève de la RATP est venue le rappeler. C'est pour cela que nous sommes convaincus que la classe ouvrière peut et doit se faire le porte-parole de toutes les catégories sociales victimes du capitalisme. Les Gilets jaunes ont exprimé la révolte d'une large fraction de la population, des travailleurs, des retraités, des artisans, des petits patrons. Par leur détermination et parce qu'ils ont trouvé un large soutien populaire, les Gilets jaunes ont réussi un temps à faire changer Macron de ton. Ils ont même poussé certains patrons à concéder une prime exceptionnelle. Mais en limitant le combat à la seule démission de Macron, en refusant de viser les grands patrons et leurs profits accumulés, et surtout en cherchant à conserver coûte que coûte l'unité entre les petits patrons et les travailleurs, le mouvement des Gilets jaunes s'est engagé dans une impasse. Face aux gilets jaunes, Macron et Philippe ont eu une tactique, tenter de les couper de l'opinion publique qui les soutenait massivement en montant en épingle les violences et la casse. En face, pour gagner, pour s'orienter, nous devons nous aussi avoir une tactique et une boussole politique. Macron et Philippe, en bons serviteurs de la bourgeoisie, connaissent le passé, les périodes comme celle de 95, 68 ou 36, où leurs ancêtres ont été confrontés à des mouvements de révolte plus ou moins profonds. Eh bien, nous aussi, nous devons connaître les luttes du passé et savoir en tirer les leçons. C'est tout cela la raison d'être d'un parti communiste révolutionnaire. Construire ce parti est une tâche de longue haleine. Il y a parfois des coups d'accélérateur quand des milliers ou des centaines de milliers de travailleurs se révoltent en même temps. Mais c'est aussi le plus souvent un travail de fourmi. Alors je voudrais terminer par les tâches qui nous attendent dans les prochains mois. Je veux parler des élections municipales. Depuis les débuts du mouvement ouvrier, les périodes électorales ont été des moments propices pour diffuser des idées, regrouper des femmes et des hommes qui les partagent, organiser ensemble ceux qui refusent de se laisser exploiter sans broncher. Les élections n'ont jamais permis de changer la vie. Nous l'avons trop vécu à nos dépens. Mais elles peuvent permettre d'implanter et de renforcer notre courant d'idées. Même si nous avions des élus, même si nous étions en situation de gérer des municipalités populaires, nous ne pourrions pas enrayer l'appauvrissement des villes populaires, empêcher des entreprises de fermer, ni augmenter suffisamment le budget des écoles ou des EHPAD. Les ressources des municipalités dépendent en dernier ressort de l'État, qui choisit de consacrer tous ses moyens à servir les riches et les patrons. Nous pourrions, au mieux, prendre systématiquement position pour les dépenses favorables aux plus démunis. Pour participer à ces élections, trouver et regrouper des dizaines de colistiers dans le maximum de villes populaires, c'est permettre aux électeurs d'avoir un autre choix que de s'abstenir, ou pire, de voter RN en croyant infliger une claque à Macron. Réussir à monter des listes du camp des travailleurs dans le plus grand nombre de villes possible, cela va être nos tâches dans les prochains mois. Pour y parvenir, nous avons besoin de vous tous, de vos voisins, de vos collègues et des amis que vous pouvez convaincre de se mettre sur ces listes. Oui, il y a du pain sur la planche et toutes les énergies seront les bienvenues. Alors bon courage pour mener toutes ces discussions et en attendant, profitez des derniers moments de la fête.